il y a eu la décision de passer 5 jours dans un foyer de charité pour participer à la retraite que je prêchais. Vous avez eu l'audace d'espérer qu'en vous tournant franchement l'un et l'autre vers le Seigneur, qu'en l'appelant au secours du vent de votre misère, vous recevriez la grâce d'apercevoir quelques éléments de solution. Je sais bien, Louis, que tu étais beaucoup moins motivé que ton épouse pour sacrifier une partie de tes congés à faire cette retraite. Il n'empêche que tu as eu la simplicité de te laisser entraîner par Hélène. Bravo. Ce que femme veut peut parfois correspondre à la volonté de Dieu. Il y a eu ensuite la démarche que vous avez faite le 3e jour de la retraite. Après moult hésitations, vous êtes venu me voir et vous m'avez confié votre problème. Rappelle-toi, Louis, l'énergie avec laquelle tu as alors défendu ton point de vue. Ma femme, m'expliquais-tu, ne comprend pas que je puisse m'investir autant dans mon activité professionnelle. Chaque fois que je rentre en retard sur l'horaire prévu, j'ai droit à une remarque désobligeante ou à une bouderie de sa part. Et tu lui répondais qu'il n'avait jamais réussi à saisir la raison profonde de ton amertume. Non, je ne suis pas jalouse de ton ardeur au travail, ni de ta réussite professionnelle, bien au contraire. Mais j'ai de plus en plus l'impression que tu t'ennuies avec moi, que je ne représente plus grand-chose à tes yeux. Que vous ai-je alors répondu ? Et je ne peux pas mettre dans le texte la fougue avec laquelle je leur ai répondu. Quand allez-vous cesser de jouer les juges de paix l'un vis-à-vis de l'autre ? Ne pourriez-vous pas réapprendre à vous exprimer votre amour sans y ajouter constamment la justification de votre dernier retard ou de votre dernière bouderie ? Au lieu d'y discuter sans cesse face à face, ne pourriez-vous pas vous asseoir l'un à côté de l'autre, sur un canapé, comme vous le faisiez sans doute lors de vos premières rencontres, le bras de l'un posé sur l'épaule de l'autre. Et je te disais, Louis, avec une certaine fermeté, apprends à te taire. Apprends à ne plus argumenter avec ta femme comme tu le fais dans ton travail, quand tu dois discuter affaires avec tes clients ou salaire avec ton personnel. Réapprends à passer du temps avec Hélène comme tu aimais le faire, je suppose, durant tes fiançailles. Tu n'hésitais pas alors à parcourir des centaines de kilomètres pour la retrouver l'espace d'un week-end. Je vous disais encore, réapprenez petit à petit l'art de rester l'un près de l'autre en silence. Qu'est-ce qu'on est bien ensemble, finalement ? On ne se dégoûte pas, ton corps ne me dégoûte pas, en silence. Mais on est toujours en train de discutailler, parce qu'on n'est pas d'accord. Vous ne bêtifiez pas lorsque vous vous interdisez de discuter, afin de goûter la joie toute simple de vous tenir la main ou de vous embrasser. Vous me confiez d'ailleurs la dernière inquisition que vous venez de faire, un canapé pour votre salle de séjour. Je constate avec plaisir que vous avez reçu mon message à 100%. Beaucoup trop de couples oublient en effet leur devoir de redevenir régulièrement amoureux comme des fiancés. Ils discutent autour d'une table ou s'étreignent dans l'alcôve, mais ne prennent plus le temps de se dire longuement leur amour et de se le manifester par des gestes de tendresse. Tu sais pourtant, Louis, combien ta femme les apprécie et les considère comme un préalable quasi indispensable à toute relation sexuelle. Le silence, l'une des plus belles créatures de Dieu et l'une des plus belles conditions d'amour dans un couple. Et c'est aussi difficile pour la femme que pour l'homme que pour la femme. On est bien l'un à côté de l'autre. La fois dernière, un commercial me prend au téléphone en prenant au hasard le bouton du téléphone. « Monsieur Descouvement, si vous aviez acheté un canapé, est-ce que vous souhaiteriez un canapé en tissu ou en velours ? Ou en cuir ?» J'avais surtout envie de répondre « J'ai le droit à un canapé gratuit à force de faire de la réclame pour le canapé dans mes conférences. » Changer de position, hein ? Dans la prière, tantôt on se met à genoux, tout petit devant toi Seigneur, tantôt on se met debout, tantôt on s'assied, tantôt on marche, tous les monastères ont des cloîtres pour qu'on puisse déambuler. Eh bien, je pense que c'est très important aussi de changer de position. Hein ? Est-ce que vous prenez de temps en temps votre femme sur vos genoux, chers messieurs ? Hein ? Comme vous le faisiez certainement à d'autres moments. Je crois que c'est très important d'inventer des positions qui manifestent votre tendresse. Et parfois, l'homme aurait le désir d'être câliné, il ne s'agit pas d'être materné par sa femme, bien sûr, on le disait tout à l'heure, mais être câliné comme un gosse par sa femme, et peut-être il n'a pas la simplicité de le faire, de le lui demander. C'est très important d'exprimer. Il n'y a pas que l'étreinte sexuelle, Dieu sait si c'est fondamental, mais en dehors de cela, retrouver des gestes d'amoureux, ne pas être trop sérieux. Évidemment, il y a une certaine discrétion, on ne fait pas ça devant tout le monde. Hein? Mais ne soyez pas trop sérieux. Retrouvez des gestes simples d'amoureux. préparer l'union nuptiale. Alors là, j'aime bien rappeler à quel point la communion, c'est une union nuptiale. Vous avez entendu ce que j'ai dit ce matin avant de vous donner la communion? J'ai traduit en français le texte prévu en latin par la liturgie de Vatican II. Seulement les évêques de France, quand ils se sont mis à traduire en français la liturgie de Vatican II, se sont dit « Nos braves chrétiens de France sont si peu cultivés qu'ils ne vont pas comprendre ce que veut dire « Beati qui vocati sunt acina magni »« Heureux les invités aux noces de l'agneau. » Comment un agneau il peut célébrer un mariage? Alors ils ont dit « Pour nos chrétiens de France, on va baisser la barre de 3 bémols. » Heureux les invités au repas du Seigneur. C'est très beau aussi d'ailleurs. Mais le texte latin prévu, heureux les invités au festin des noces de l'agneau, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Car la grande tradition chrétienne a toujours considéré que la communion, c'est le baiser nuptial de l'époux à son épouse. Viens ici que je t'embrasse. C'est fondamental, j'aime beaucoup prêcher cela. Sans faire de réclame commerciale, le dernier petit bouquin que j'ai écrit s'intitule « Les mains de Jésus ». Et j'ai plusieurs pages où je rappelle à quel point Jésus nous embrasse comme un époux embrasse son épouse. D'ailleurs, il nous dit ce qu'un époux peut dire à son épouse avant de se donner à elle. « Ceci est mon corps livré pour toi. » Tant que vous ne comprendrez pas, messieurs, je m'adresse surtout aux messieurs, que Dieu vous aime comme un époux aime son épouse, il y aura toujours quelque chose qui manquera dans votre vie spirituelle. Et c'est sans doute la raison, j'explique ça dans l'appendice de mon livre, c'est sans doute la raison pour laquelle il y a plus de femmes que d'hommes dans les églises, plus de femmes que d'hommes dans les couvents. J'ai mis 25 ans à trouver la solution. Je me suis demandé depuis ma jeunesse pourquoi il y avait plus de femmes que d'hommes dans les églises. Et je crois avoir trouvé la solution. Il y a une certaine parenté entre le féminin et le religieux. Les hommes doivent accepter d'être aimés d'un amour conjugal. Votre sacrement de mariage n'est qu'un sacrement. Je ne suis pas gentil en disant ça. C'est-à-dire que c'est le sacrement, le signe d'un mariage beaucoup plus important, qui est l'alliance nuptiale entre Dieu et chacun d'entre nous. Dans beaucoup de paroisses, on chante « Le peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe, peuple de l'Alliance. » De quelle alliance s'agit-il ? De cette alliance conjugale que Dieu fait avec chacun d'entre nous. Et c'est formidable quand un homme découvre cela. Un homme que je connais bien, bien dans ses pompes, bien dans son corps, bien dans son ménage, bien dans sa paroisse, a dit dans cette pièce, les larmes dans les yeux, à la suite d'une école de prière, « Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je me mets à parler cette semaine en disant « Jésus, mon bien-aimé ». Un homme qui n'a jamais remis la foi de son baptême en question. Mais à 50 ans, il vient de découvrir Jésus, mon bien-aimé, qu'il a le droit de parler à Jésus comme à un époux. Vous connaissez peut-être le merveilleux petit Van vietnamien, dont on parle de plus en plus en France. Le merveilleux vietnamien qui est mort martyr dans un camp du Viet Minh. Jésus lui dit, ce n'est pas parce que tu es garçon que tu dois oublier que mon âme, que ton âme est mon épouse. Malheur aux prêtres, malheur aux hommes qui oublient cette dimension nuptiale de leur amour. Jésus nous aime comme un époux. Il faut vous laisser aimer comme un époux. Avoir une relation d'intimité conjugale avec Dieu. Bon, c'est fondamental pour la vie chrétienne. Bon, ce serait merveille que vous découvriez tout ça ce week-end. Ce serait le week-end du siècle. Non, découvre pas ça immédiatement. Eh bien, il y a tout un art aussi, bien sûr, de préparer dans votre dialogue conjugal votre union nuptiale. Je te reçois comme épouse et je me donne à toi. Je te reçois comme époux. Et vous savez combien vos unions intimes ont avantage à être préparées par beaucoup de tendresse préalable. Et beaucoup de caresses. Sur mes vieux jours, je pense que je n'ai pas suffisamment expliqué aux garçons auxquels j'ai fait cours pendant si longtemps l'importance de la caresse dans la vie. Une caresse qui ne veut pas dire tout de suite « allons au lit », mais une caresse qui est vraiment l'expression de l'amour, l'expression de la joie que j'ai à vivre aux côtés de cette femme et de lui donner du plaisir, sans forcément tout de suite chercher le mien. Bon, c'est très important. Accepter l'aridité. La prière, c'est pas toujours le troisième ciel de la contemplation. Il faut accepter que ça soit difficile. Il peut y avoir des grands moments de ferveur et des grands moments d'aridité. Eh bien, dans un couple, il faut accepter de ne pas toujours être au troisième ciel ou au septième ciel de l'amour conjugal. Et pas seulement dans les moments de crise, il y a des moments où c'est plus banal. Eh bien, je continue à t'aimer, je veux t'aimer, je veux te rendre heureuse, même si moi, j'ai l'impression de ne pas... Et même si j'ai l'impression même de ne pas te rendre encore heureux, parce que le grand désir d'un homme, bien sûr, c'est de rendre heureuse son épouse. Et le grand désir d'une épouse, c'est de rendre heureux son mari. Bien, si nous avons l'impression de ne pas nous rendre heureux l'un et l'autre, et l'un par l'autre, eh bien, nous décidons de rester ensemble. Nous voulons nous aimer. Nous voulons continuer être fidèles à ce serment d'amour que nous avons pris en nous mariant il y a bien longtemps. Nous voulons rester ensemble. Accepter sa faiblesse, c'est fondamental dans la vie chrétienne. Je ne suis pas le bon Dieu. Il faut parfois toute une vie pour accepter d'être fragile, d'être faible. On y reviendra. C'est d'ailleurs si difficile qu'il n'y a qu'un seul qui a bien réussi ça, c'est Jésus. Jésus n'a pas péché, mais il a accepté sa condition de créature. On y reviendra. Eh bien, de même, dans un couple, il faut accepter un jour ou l'autre, mon mari n'est pas parfait. Oh, ça, les femmes s'en aperçoivent très très vite, dès leur fiançailles.